les jours, les mois, les années. Une nouvelle de l'écrivain Yann Lianke. Lecture proposée par Christine Fusarelli. Épisode numéro 8. La chaîne montagneuse s'étendait à perte de vue. À quelques kilomètres alentour, au point de rencontre du ciel et des cimes, l'horizon s'allumait de flammes ardentes. L'aïeul arriva à hauteur du champ. Le chien accourut. L'aïeul dit « Le puits est à sec. Il n'y a plus d'eau. Le puits est empli de rats morts. » Il demandait encore si des rats étaient venus jusqu'ici. Le chien secoua la tête. L'aïeul dit « Toi et moi, nous allons mourir à cause des rats. Le pied de maïs aussi. Nous n'en avons plus que pour quelques jours. » Le chien se tenait à l'ombre de la cabane, l'air désorienté, la gueule tournée vers le ciel. L'homme déposa les seaux, entra à l'intérieur de l'abri de natte, jetait un coup d'œil. Chaque feuille de la culture était constellée de taches maintenant, aussi grosses qu'un ongle. La gueule s'enferma dans un long silence. Devant la plante, dont il fixait deux petites zones altérées sur la 11e feuille, il cligna des yeux, de ses yeux usés. Les mouchetures allaient s'élargissant pour finir par se rejoindre et former comme une cosse desséchée. Les veines du cou de l'aïeul saillaient comme les racines apparentes d'un vieil arbre. Il sortit de l'abri de natte, prit la cravache qui se trouvait dans la cabane, et visa le centre du soleil. Il donna une bonne dizaine de coups de fouet successifs, tournant sur lui-même, brisant les rayons dont les ombres tremblaient sur le sol. Puis, les veines de son cou se firent moins visibles sous la peau. Il retourna à la cabane, accrocha la cravache au pilier, prit la palanche et les seaux, et se mit à grimper vers l'arête de la montagne, sans dire un mot. Le chien observa d'abord dans quelle direction partait l'aïeul, les ténèbres de ses yeux emplis de larmes. Le bruit des pas de l'aïeul s'affaiblit, puis disparut complètement. Alors seulement, très lentement, la bête retourna se coucher au pied de la culture. L'aïeul partait chercher de l'eau. Il tenait pour certain que là où les rats étaient allés, il y avait de l'eau. Sinon, comment aurait-il pu endurer la sécheresse jusqu'ici? Il pensa, s'ils ont migré, c'est sûrement parce qu'il n'y a plus rien à manger. Sinon, ils n'auraient pas dévoré tous les meubles en bois du village. Il pensa, s'ils ont migré, ce n'est certainement pas parce qu'il manquait d'eau. Tandis que l'aïeul avançait, seul sur la chaîne montagneuse, le soleil surplombait le chemin, brillant par gerbes épaisses, faisceau vigoureux, avec une telle netteté qu'on aurait pu compter chaque rayon. Devant et derrière son épaule, les deux seaux émettaient un sifflement plaintif, pareil au soupir de la terre desséchée. L'aïeul entendait simultanément cette expiration blême et le bruit isolé de ses propres pas. La dérédiction se fit plus vaste dans son cœur que sur cette terre en souffrance. Il parcourut successivement trois villages, dont les puits étaient pleins d'herbes et de roseaux, parfaitement secs, sans la moindre odeur de moisissure humide. décida de ne plus chercher d'eau dans les villages. S'il y avait eu de l'eau, pourquoi les villageois auraient-ils fui? Il se mit à descendre dans les gorges, longeant les falaises en quête de la moindre parcelle de terre humide. Après avoir grimpé puis descendu quelques monts, il vit dans un étroit ravin une pierre sur la face ombragée de laquelle se trouvait une branche de roseau. Il dit « Merde, il y a donc encore de l'espoir ?» Il s'assit sur la pierre pour souffler, arracha la branche, emporta un morceau à la bouche, le mastiqua lentement pour en sucer le jus sucré, puis avala les morceaux prémâchés. Il dit « S'il n'y a pas d'eau ici, je veux bien me cogner la tête contre les rochers. » Il se mit à marcher de long en large, respirant péniblement, son souffle haletant devant lui comme une pluie hivernale de pommes de pin. Il ne savait pas depuis combien de temps il marchait. Il lui semblait qu'à l'instant, alors qu'il mâchait le roseau, le soleil rougeoyait encore à l'ouest, au-dessus d'une arête, tandis qu'à présent, alors qu'il découvrait sous ses pieds une étendue régulière de sable blanc au lieu d'une terre sèche et dure, le couchant étendait déjà son étoffe rouge sang. Finalement, la nuit tombait presque lorsque l'aïeul trouva la source. Il vit d'abord le sable blanc légèrement coloré d'un rouge aqueux, puis sentit sous ses pieds brûlants, après cette si longue marche, une agréable fraîcheur. Il avançait, foulant le sable humide. Le ravin allait en se rétrécissant. À un moment, l'aïeul heurta les parois de l'épaule. C'est alors que la douce musique de l'eau lui parvint. Levant la tête, la vision d'un paysage verdoyant le saisit. Il s'arrêta. Depuis 5 mois, il n'avait plus vu autant d'herbes vertes. Il avait presque oublié à quoi ressemblait une prairie. Il y avait là des roseaux, des fleurs rouges et blanches alternant avec d'autres encore. Dans la chaleur étouffante, cette épaisse saveur verte, humide et sucrée, s'insérait soudain, se déployait, murmurait le long du ravin. Tout à coup, l'aïeul sentit sa gorge le chatouiller. Il voulait boire. La sensation de sécheresse l'avait assailli subitement, engourdissant ses lèvres gercées sans qu'il puisse y résister. Il avait déjà repéré à quelques pas devant lui une étendue d'eau large comme la moitié d'une natte. Le petit étang recouvrait les joncs pour moitié, de sorte que la verdure traversait le miroir de l'eau. Mais alors qu'il s'apprêtait à laisser ses seaux pour courir étancher sa soif, il s'arrêta. Il avala profondément sa salive, sans bouger. Il y avait un loup embusqué derrière un massif. Un loup de même taille que l'aveugle. Ses yeux étaient verts et brillants. Il avait d'abord été surpris par l'apparition de l'aïeul, puis, comprenant qu'il transportait des seaux, son regard s'était chargé de haine et de cruauté, il avait même légèrement fléchi ses pattes de devant, comme pour se tenir prêt à bondir. Cloué sur place, l'aïeul le fixait du regard, sans ciller. Il comprenait que si le loup n'avait pas fui, c'était à cause de cette source. Il dévia discrètement le regard, aperçut à côté du marais des formes grises, blanches et brunes, il s'agissait de poils et de plumes. L'homme réalisa subitement que le loup était posté là, près de la source, à attendre que viennent boire oiseaux et quadrupèdes, et il en frémit intérieurement. Il est si maigre. Il t'attend peut-être depuis 3 à 5 jours. À 2 pas, Une pierre de sable était maculée de traces sombres, de sang séché. Des restes de repas du loup jonchaient le sol, ossements gris plus ou moins longs, têtes de rats ressemblant à des trognons de pêche ou de jujubes. L'aïeul sentit, mêlée à l'odeur fraîche du marécage, celle de la chair en putréfaction. La sueur imprégnait ses mains qui tenaient la palanche. Ses jambes tremblèrent doucement, le loup fit un pas dans sa direction. Alors, tandis que l'animal s'approchait, les roseaux bruissant sur son passage, l'aïeul se courba promptement pour déposer les seaux à terre, se redressa et brandit la palanche droit devant lui, braquée vers la tête du loup. Celui-ci recula d'un demi-pas. Ses yeux ronds jetaient des éclairs verts et féroces. L'aïeul regardait le loup droit dans les yeux. Le loup regardait l'aïeul droit dans les yeux. Et le foudroiement de leurs regards retentissait dans l'étroit ravin silencieux, éclat brûlant, éblouissant. La surface lisse du petit étang se brouilla, parcourue de vibrations. Le soleil allait disparaître. Le temps filait dans l'affrontement de leurs regards comme les chevaux s'éloignent au galop. Devant eux, le ravin pourpre pâlissait. Un souffle d'air frais descendait du haut de la montagne. L'aïeul ne savait pas quand cela avait commencé, mais il sentit soudain son front couvert de sueur et une sensation d'épuisement monter dans ses jambes, monter progressivement et s'étendre. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi à se tenir debout, le corps roidi. Il avait marché toute une journée, tandis que le loup était resté couché. De la journée, il n'avait pas bu une seule gorgée d'eau, alors que le loup était resté là, à surveiller la source, où il pouvait aller boire à tout moment. Il passa doucement sa langue sur ses lèvres gercées, eut l'impression qu'il la passait sur un buisson d'épines. Il pensa « Le loup a gardé cet étang. Crois-tu que tu puisses en boire toute l'eau ?» Il dit « Eh, tu me donnes deux seaux d'eau et je te prépare une soupe de grains de maïs pilé. » Tout en parlant, il resserra sa prise sur le bâton de saule de la palanche, maintenant fermement le bout pointé droit vers le front du loup, même les deux crochets attachés à chaque extrémité ne remuaient pas le moins du monde. Mais dans le regard du loup, la lumière se fit plus tendre. Il finit par cligner des yeux. Bien qu'il les rouvrit grands l'instant d'après, l'aïeul voyait bien que leur dureté déclinait pour se teinter d'un peu de douceur. Le couchant frémissait légèrement, en même façon que tombent et voltigent les feuilles dans le vent. L'aïeul relâcha un peu sa prise sur la palanche maintenue pointée vers le front du loup. Il l'abaissa enfin, laissant le bout du bâton reposer à terre, dans une touffe d'herbe. Il dit « Demain, je t'apporterai un bol de nourriture. » Le loup ramassa ses pattes de devant, se retourna et très lentement contourna l'étang pour se diriger, la démarche affaiblie, vers la sortie du ravin. Il fit volte-face au bout de quelques pas pour jeter un dernier coup d'œil derrière lui, puis reprit son cheminement. Le bruit de son pas tiède et sourd résonna dans l'étroite et longue gorge avant de s'affaiblir. L'aïeul l'accompagna du regard jusqu'à ce qu'il tourne un peu plus loin. La palanche lui glissa des mains. Il s'affaissa sur ses talons, presque paralysé de fatigue, essuya la transpiration sur son front, eut un tremblement incontrôlé. Alors il se rendit compte que son unique vêtement, son pantalon de toile blanche, était entièrement trempé de sueur, collé à ses jambes. Il poussa un profond soupir. Accroupi, il n'avait plus la force de se relever. Il se déplaça de la sorte jusqu'au bord de l'étang, puis s'étendit pour avaler de longues gorgées d'eau à la manière d'un bœuf venu s'abreuver. La fraîcheur de l'eau pénétra immédiatement son corps, l'irriguant depuis la bouche jusqu'à la plante des pieds. Il but à satiété, puis se lava le visage. Lorsqu'il vit au-dessus de lui la frange rouge du couchant, aussi épaisse qu'une feuille de papier, il remplit ses seaux, les déposa au bord de l'étang, quitta son pantalon. Il se baigna. Tout en se baignant, il disait « Le loup, hé, le loup, aujourd'hui tu m'as offert 2 seaux d'eau, demain où irai-je te chercher un bol de soupe de maïs ? Tiens, je t'apporterai quelques rats, je sais que tu aimes manger de la viande. » Il pensa « Je suis vieux, mes forces m'abandonnent, je ne peux pas ne pas te céder mon repas. Il y a 10 ans en arrière, ou même quelques années seulement, je ne t'aurais pas dit que j'allais t'apporter des rats à manger, et si, armé de ma palanche, je t'avais laissé partir, c'eût été par pure pitié. » L'aïeul parlait ainsi, gesticulant interminablement. Après avoir troublé par ses ablutions toute l'eau de l'étang, il urina sur la berge. La feuille rouge du couchant pâlissait, s'amincissait. Il arracha 2 poignées d'herbes tendres pour les éparpiller à la surface des 2 seaux d'eau, puis commença à avancer lentement vers la sortie du ravin. Sous le poids des seaux, la palanche s'arquait, mais l'aïeul avançait prudemment. L'eau ne giclait pas. L'herbe disposée en surface l'en empêchait. Le grincement rauque des seaux courbant la palanche se heurtait aux parois rocheuses et retentissait de loin en loin, tout au long du ravin. Je dois y aller doucement. Si j'atteins le chemin de l'arête avant la tombée de la nuit, je n'aurai rien à craindre. Les rayons lunaires me raccompagneront jusqu'au champ. Alors, j'aspergerai d'eau le pied de maïs et les taches de sécheresse ne pourront plus s'étendre. L'aïeul prenait son temps. Il n'avait pas pensé qu'une meute de loups lui barrerait la route.